s'absenter. Une exposition de Françoise Petrovic au FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'au 30 octobre 2016. Promenade, visite de l'exposition en 6 fragments avec Françoise Petrovic. Je tends l'oreille, cherchant à attraper la musique de ses nouvelles œuvres. Presque toujours, en effet, la peinture émet de la musique. Elle chante ou grince, fredonne ou crie, nous fait entendre violon ou flûte, percussions, soupirs, suaves harmoniques des natures mortes. Là, non. C'est ça qui frappe. De ma vie, je crois, je n'ai jamais entendu un tel silence émaner de l'œuvre d'un peintre, silence proprement sidéral. Il semble s'être produit ici une dévastation innommable. Et, de même, le silence que nous entendons en regardant ces toiles de Françoise Petrovic est celui de l'après. Après, comment dire cela? Une sorte de Tchernobyl intime. On ne saura pas. Ce n'est absolument pas utile de savoir en quoi consistait l'apocalypse. C'est peut-être tout simplement la vie normale, la vie humaine normale sur Terre, avec son cortège de violence, de cruauté, de déception, de trahison et de bêtises. On n'en verra que les effets, sidération, silence. Tous les enfants sont des survivants, tous sont blessés. Là où la force les a frôlés, c'est rouge. Le rouge tache et déteint, rouge à lèvres, lèvres de la blessure, blessure de la vie qui bée et blesse, faisant éclore des fleurs de sang. Les visages ne racontent rien. Les lèvres des visages sont fermées. Seulement s'ouvrent les lèvres de la blessure. Elle bée, parle, crie, en silence. Ne bouge pas, poupée. Elle ne bouge pas. Ne pipe pas mot. On a beau tendre l'oreille, elle n'émettra pas le moindre son. Les yeux sont baissés, détournés ou vides. Son sourire est celui de la plaie. Tu me plais, poupée. Ne bouge pas. Danse pour nous. Cendrillon, les cendres de l'enfance, les cendres de la danse. Montre-nous la liberté. Montre-nous la lisière, le liséré, le liseron, jupon, frisette, froufrou. Ajoute quelques accoutrements. On habille la poupée et on lui intime l'ordre de rester immobile, de se tenir tranquille. La poupée joue à être une petite fille qui joue à être une grande fille qui joue à être une femme qui joue à être une poupée. Devenir femme, c'est imiter. Apprendre à s'habiller, à se tenir, à se grimper, à grimacer. Rouge, sang sur bec et ongles, griffes et crocs. On se fait bête, plus bête qu'on est. On se perd dans la forêt, mais la forêt c'est la chair. La forêt sauvage c'est la chair, sauvage. Sans sauvetage possible. Insauvable, on s'y égare. L'enfant, garçon ou fille, est une toute petite bête vivante, traquée. Toujours perdue, toujours aveugle, toujours masquée. Le visage est masque, les mains sont gants. Tous les criminels agissent gantés et masqués. Et nous sommes tous des criminels car cela a été possible et a eu lieu et nous l'avons vu et sidéré. Nous ne pouvons rien en dire car cela a éteint d'un seul coup toutes nos musiques. Après notre corps ressemble encore à un corps. Mais l'ombre de notre corps ne ressemble plus à rien. C'est le tracé précis des effets du Tchernobyl intime. Le tracé précis de notre être intérieur ayant perdu forme et limite. Le nuage champignon de notre silence. Après. Réflexion sur les œuvres récentes de Françoise Petrovic par Nancy Houston. Sixième fragment. S'absenter. Une exposition de Françoise Petrovic au FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'au 30 octobre 2016. Visite de l'exposition avec Françoise Petrovic en 6 fragments. Sur les ondes de Radio Grenouille, 88.8, sixième fragment. Les sculptures, céramique, faïence et bronze. François Petrovitch, dans cette exposition S'absenter, de juillet au 30 octobre, il n'y a pas que des peintures, il y a aussi des sculptures. Et là, nous sommes au milieu de cette série de sculptures. Vous me dirigez vers...
Ben là, je vous dirige devant un petit, une petite céramique qui est émaillée d'un émail très brillant, qui est posée sur un petit coussin. Voilà, c'est un petit oiseau posé sur un coussin.
Dans les céramiques, dans les sculptures, le travail de la figuration continue, est à l'œuvre.
Ouais. Alors, il y a un peu changé, hein, parce que forcément, les trois dimensions font qu'on bouge des choses. Par exemple, les gants, là, on dirait des flaques d'eau. Hein. C'est pas des gants. Enfin, c'est des gants, mais en plus, j'ai l'impression que ce soit des choses très... J'aimais bien de faire une sculpture qui soit toute plate, comme une flaque. Mmh. Et c'est juste le matériau, c'est-à-dire l'état de surface... Qui redonne le mouvement, qui redonne le volume presque aussi, du coup.
C'est marrant parce qu'avec les gants, on retrouve aussi le motif de la main, des motifs qu'on a pu voir dans certains de vos tableaux. La main, le gant,
ouais,
c'est
bah
comme
oui.
L'oiseau, c'est des choses
bah
qui
oui,
sont...
Oui, c'est des choses aussi qu'on... Moi, le gant, j'aime bien parce que c'est ce qui recouvre aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui cache, c'est quelque chose qui protège. Il y a un envers, un endroit. C'est quelque chose qui va par deux. Quand on en perd un, on ne peut plus rien en faire. Donc il y a plein de choses avec le gant. Puis dans la peinture, ça a été un motif très représenté dans la peinture de Renaissance, par exemple.
Le gant.
Ah ouais, énormément. Regardez, vous allez voir, c'est génial. Vous cherchez, par exemple, vous allez au Louvre et vous regardez que les gants. C'est juste dingue.
Il y en a partout.
Ah non, il y en a partout. Il y a même beaucoup de mains qui serrent des gants, par exemple. Donc on a une main.
Sans gants.
Entre guillemets, sans gants. Réelle, je veux dire, alors qu'elle est pareille, elle est peinte. Et elle tient un gant, donc c'est-à-dire que c'est une main qui est vide, qui est creuse. Et c'est même incroyable tout ce qui existe.
C'est vrai, d'ailleurs, on parlait au tout début de notre rencontre, de cette visite, on parlait de Magritte, et il y a des gants chez Magritte.
Oui, il y a des gants, oui. Mais il y en a partout, chez Picabert, il y en a plein, chez Rico, il y en a plein.
Oui.
Ouais, ils sont volants, ils sont hors échelle. C'est marrant, hein. Ouais. Ils sont tout seuls, ils sont deux, enfin, oui, il y a plein de choses.
Dans les sculptures ici, il y a une dimension aussi un peu, on va dire, Lewis Carroll.
Ce que j'appelle les sentinelles, là, ces deux-là.
Les sentinelles.
Les bronzes, ouais. Bah, ils sont un peu burlesques, on ne sait pas trop. Hein. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que c'est cet animal-là. On dirait une cloche, mais est-ce que c'est un veau, est-ce que c'est un chien ?
Je pourrais pouvoir le décrire.
On ne sait pas trop.
Il y a une tête assez immense.
Ouais.
Des oreilles immenses, donc plutôt une tête effectivement d'un animal, mais cette tête repose sur un petit corps de fille.
Ouais. Mais on ne voit pas la tête de la fille par contre, hein. Si on a beau se pencher, on ne le verra pas.
Non, on ne le voit pas, non.
Il n'est pas fait.
Et là, il y a une autre sentinelle ici, qui est sur le même principe, mais en plus petit, avec une autre tête.
Ouais, tête de lapin et corps de fille là.
C'est quoi ce jeu d'association justement du corps humain et du corps animal qu'on retrouve aussi dans les nocturnes? Il y avait cette association.
Ah, je sais pas trop. Hein. Je sais pas. Bah, ça permet de fabriquer des nouvelles formes aussi.
C'est ça.
Bah oui, c'est le vocabulaire qui est voilà, ça me plaît parce que je m'amuse avec, je refabrique des choses. Et puis on est moins dans la représentation, voilà, on joue avec la figure, c'est la figuration, elle devient, elle est dissociée. Ça permet d'être moins réel.
Oui, il faut quitter le réel un peu.
Bah oui, c'est bien.
Il y a un film de Peter Brook qui s'appelle Sa Majesté des Mouches.
Ouais, j'adore. Ouais.
Pourquoi ?
J'adore parce que, d'abord, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais c'est dingue, je ne connaissais pas. Et il y a tout ce que j'aime dedans, c'est-à-dire qu'il y a d'abord les enfants, la jeunesse. Il y a beaucoup de cruauté, hein, c'est terrible.
Parce la cruauté.
Il tue là, le petit garçon. Il y a le côté bricolé que j'aime dans ce film, c'est-à-dire qu'il y a en même temps une lumière hyper sophistiquée. C'est un photographe qui était cadreur, qui était chef-op. Donc il y a quelque chose de très travaillé au niveau de la lumière. En même temps, c'est quelqu'un qui n'avait pas du tout de tic d'habitude, de maîtrise du film. Donc ça donne une image assez incroyable. Tous les enfants sont des amateurs. Donc tout le monde a été des amateurs dans le film. Pas d'argent, pas de moyens. Et finalement, on fabrique quelque chose qui est... je trouve qu'il fonctionne, et fonctionne très très bien. Et l'adulte vient juste à la fin pour arrêter tout. Et puis il y a plein de figures... Il y a plein de gestes comme ça qu'on perçoit. Il y a la présence de l'eau puisque c'est une île. Hein. Ils sont sur une île. Donc il y a aussi quelque chose que... On ne sait pas trop où on est. Est-ce que c'est... C'est un monde à part. Voilà. C'est vraiment un monde à part.
Et comment ce film-là vient nourrir votre travail ?
En réalité, nourrir... moi, j'ai découvert tard. Hein. J'ai découvert il y a quelques années. Donc il ne vient pas trop nourrir. Mais il est à côté.
Il vient en camarade, en fait.
Ouais, voilà, exactement, en complicité, quoi. C'est ça, ouais. Il est super. Puis c'est quelqu'un qui vient du théâtre, donc Brooke, qui fait donc un film. Donc moi, j'aimais bien tous ces... Comment dire, ce non-professionnalisme, mais qui est tellement... porté par de l'émotion que finalement, on s'en fout, quoi. C'est pas de la maestra, enfin, c'est pas extrêmement bien filmé, je crois qu'il s'en fout. C'est peut-être ça qui est bien aussi.
Derrière nous, on entend la musique d'une
on autre, l'entend beaucoup d'ailleurs,
d'une
non
autre installation. Non, ça,
pas,
va.
Ça va.
D'une autre installation vidéo.
Oui.
On a pu voir ensemble la vidéo Les Échos. L'écho, pardon.
L'écho, ouais.
L'écho. Là, on est installé donc au bord d'un bronze. Peinture, bronze, vidéo, comment vous circulez comme ça à l'intérieur de tant de techniques ?
Maintenant, je circule de mieux en mieux. Voilà. Ce qui est plus long à faire, c'est de circuler avec le même plaisir dedans. C'est-à-dire de ne pas être... voilà. Par exemple, il y a des dessins de la vidéo qui vont devenir, à mon avis, des sculptures plus tard. Et puis ces mêmes sculptures, elles vont réapparaître dans une peinture. Maintenant, je m'en fous complètement. C'est-à-dire que ça passe de l'un à l'autre, d'une échelle à l'autre.
Quand on parlait des dessins, vous nous aviez parlé de ce caractère comme ça rapide. Vous aimiez être dans la rapidité du geste. Quand on a parlé de la peinture, on a parlé en termes de valeur. Et quand on parle des sculptures, alors comment vous abordez ?
C'est le geste, la sculpture. Vous voyez, ce sont des techniques où je modèle. C'est-à-dire que c'est moi avec ma main qui modèle donc de la terre. Ensuite, c'est du modelage. Et après, par exemple, pour le bronze, c'est modelé en terre. Et ensuite, on fait un moule et c'est donc mis en fonderie. Mais ce n'est pas une sculpture d'assemblage. On est vraiment dans une sculpture du geste. C'est la vision dessinée.
C'est la vision dessinée.
Moi, je crois.
Mais par exemple, sur la peinture, vous disiez, faites confiance à la peinture. Qu'est-ce qu'elle va offrir ? Qu'est-ce qu'elle va offrir comme type de contraste ? Qu'est-ce qu'elle va offrir comme type de couleur et de lumière, surtout ? Sur les sculptures, comment les sculptures naissent ? Est-ce qu'il y a une forme de confiance à la matière ?
Il y a un croquis au départ. Il y a toujours un petit dessin.
Alors là, il y a un croquis.
Un petit dessin. C'est un dessin qui est fait d'une seule face. C'est-à-dire que je ne fais pas un croquis de plusieurs faces pour qu'on voit les quatre côtés. J'ai l'impression que ce n'est pas tellement un croquis de sculpteur. Je fais vraiment un croquis de dessinateur. Hein. Et ensuite, moi, je modèle et j'invente. Enfin, en tout cas, je fabrique les autres côtés.
Alors, il y a effectivement la forme qui prend, mais ensuite, il y a aussi la manière dont vous avez
choisir
de lisser ou pas lisser.
Il y a les appuis du main. Voilà, on retravaille dedans, quoi. On est dedans.
C'est très corporel.
Ouais, je pense, là, ouais. Ouais.
Plus que la peinture. Hein.
Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est plus, beaucoup plus physique, la sculpture, ouais. Ouais. C'est vachement, ouais. C'est beaucoup plus physique. Mais ça a aussi une présence... surtout le bronze, hein, ça rend quelque chose de très dense aussi.
Ouais.
C'est lourd. J'aime bien, comme ça. J'aime bien, mais c'est justement pour ça qu'il y a un décalage. On amène de la légèreté, de l'humour, un peu de dérision à ce matériau qui est hyper empesé, quoi, finalement,
ouais.
Le bronze.
Ouais.
Il faut que... J'aime bien avoir cet écart. C'est des histoires de tension. Hein. C'est-à-dire que si on est trop près dans le matériau et dans ce qu'on dit, ben... Ça devient lourd, hein, ce que j'aime pas. Et au contraire, si on essaye de distendre au maximum et sans aller au-delà pour être cynique, ouais, y a un truc qui m'intéresse d'entre les deux.
Et là, vous tenez l'autocritique d'une certaine manière à l'intérieur même de la sculpture.
J'essaye un petit peu, hein. C'est pas évident.
L'appui des doigts en sculpture a la même importance que le trait de peinture.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faut que ce soit moi qui fasse tout ça. Parce que toutes les décisions, elles se prennent sur le moment. Je peux pas les déléguer. Si je décide, par exemple, de creuser là, ça va donner une lumière particulière, oui. Et ça va donner un sens particulier surtout à la pièce. Si je l'avais laissé comme ça, ça aurait donné un autre sens. Donc toutes ces décisions, elles se prennent au moment de la réalisation.
Vous nous aviez aussi parlé des peintres que vous allez regarder quand vous allez au musée, et au niveau des sculpteurs.
Moi, j'aime bien Dittmann, qui est j'aime bien les sculptures de Miro.
De Miro.
Ouais, même si des fois on l'a un petit peu oublié, je trouve qu'il y a vraiment des choses très belles. Max Ernst aussi, des super.
Miro, c'est des petites sculptures, c'est
non,
ça.
Non, il y a tout, il y a des très grosses.
Il y a des très grandes.
Des immenses, ouais. Immenses, il y a tout. Max Ernst, que j'aime beaucoup aussi. Après, il y en a tellement. Ah oui, il y a Smith aussi qui fait des constructions. Alors là, moi, je suis pas du tout dans la construction, mais je trouve génial ce qu'il réalise. J'avais un livre avec tout son atelier, toutes ses sculptures qu'il avait semées comme ça dans des champs tout autour. Il y a un côté dingue, une espèce de profusion qui dépasse comme ça sa tête et puis qui va envahir tout un espace.
Et les sculptures de Giacometti qui ont à voir avec la question de la figuration.
Je sais pas, j'ai l'impression que je passe un petit peu à côté de cet artiste. Il faudrait que je le regarde mieux. Il y a des gens, on sait qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Hein, c'est vrai, hein. Et du coup, c'est bon. J'ai encore du temps, hein, pour le comprendre, mais heureusement qu'on change et qu'on arrive à voir des choses quand même, hein, de plus en plus.
C'est bien de ne pas comprendre.
Ouais, je sais, c'est bien.
Oui, enfin, c'est vrai, ça permet de pouvoir y revenir.
Ouais, exactement, et de pouvoir encore se faire plaisir, pas dire je sais, je connais, c'est bon, j'ai vu. J'ai l'impression que j'ai pas vu, j'ai pas compris.
Sixième radio. Les sculptures, céramique, faïence et bronze. S'absenter. Une exposition de Françoise Petrovitch au FRAC Provence-Alpes Côte d'Azur jusqu'au 30 octobre 2016. Une visite à retrouver sur le site de Radio Grenouille en podcast www.radiogrenouille.com.